Bonjour, bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter avec vos rendez-vous habituels au sommaire jusqu'à 13h, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat, comment penser, comment inventer la France de demain, l'archipel français, les fractures françaises sont-elles des fatalités et puis comment réunir des territoires éclatés, métropoles, petites villes, campagnes, zones périurbaines, comment concilier les cultures les plus locales, les traditions et le monde que dessine la révolution technologique et numérique en cours, l'avenir est à la paysannerie. C'est le fil rouge d'un essai que publie l'un de nos grands sociologues, Le Sacre de la Terre, paraît aux éditions de l'Aube. Jean Viard travaille sur les mutations de notre société depuis des années et il viendra nous rejoindre d'ici une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et on commence avec le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va commencer le débrief de l'actualité avec évidemment ce qui a occupé la scène médiatique ces derniers jours.
Ce que je peux vous dire, c'est que les choses les plus efficaces sont toujours les plus simples et ce sont les plus rapides et ce sont celles qui marchent. Et ça a été le cas, je m'en félicite, je revis.
Voilà, c'était la voix de Carlos Ghosn, entretien exclusif qu'il accordait à Léa Salamé sur France Inter, l'ex-PDG de Renault-Nissan qui continue de clamer son innocence depuis Beyrouth où il est réfugié depuis une dizaine de jours. Étonnante stratégie, en général les fugitifs, on va le dire rapidement, font profil bas. Carlos Ghosn a choisi la stratégie inverse, prendre les devants, occuper la scène médiatique, s'adresser aux journalistes, à des centaines de journalistes. Gilles Finkelstein, que pensez-vous de cette histoire ?
Oui, il lui est sans doute plus difficile de ne rien dire qu'à un fugitif classique compte tenu de qui il est, de la manière dont dont il a quitté le Japon. Cette conférence de presse a été, disons, une contre-offensive très maîtrisée dans sa forme, jusqu'au choix des horaires, des langues, des journalistes, et très maîtrisée, y compris sur le fond, dans lequel on a vu qu'il y avait une volonté de hiérarchiser de manière très précise les attaques et de ne pas en dire trop.
Et de défendre son héritage de capitaine d'industrie, notamment à la tête de Nissan.
À force de ne pas en dire trop, on n'en sait pas beaucoup plus. On n'en sait pas beaucoup plus, et donc c'est assez difficile d'aller plus loin sur le fond de ce dossier, à la fois sur les attaques qui sont portées contre Carlos Ghosn et des attaques qui sont portées par Carlos Ghosn. Donc on reste un peu sur sa fin à l'issue de cette conférence de presse. Cette séquence éclaire un peu sur la personnalité quand même de Carlos Ghosn, qui a à la fois un parcours d'exception, une intelligence d'exception, on l'a vu aussi, une capacité à la fois de vision et d'exécution, et une avidité d'exception, avidité de pouvoir, avidité d'argent. C'est une personnalité qui est plus atypique qu'empathique, si on veut le résumer. Et puis, dernier point, sur le bilan de Carlos Ghosn à la tête de Renault et de l'alliance Renault-Nissan, puisque c'est un point sur lequel il est beaucoup revenu pour défendre ce qu'il avait fait et montrer qu'il y a un avant et un après Carlos Ghosn. Et j'ai quand même le sentiment que les choses sont un peu plus complexes que cela, au sens où le bilan de Carlos Ghosn a ses ombres. Il a eu, pour le coup, des aspects visionnaires. Il a été parmi les premiers à sur le tournant sur l'électrique. Il a été l'architecte de l'alliance avec Nissan et du moment où il était possible de le faire, sur le low cost auquel personne ne croyait. Mais c'est aussi un homme des délocalisations massives d'emplois et d'une alliance qui, pour beaucoup, était une alliance factice, dont on a vu après son départ qu'en réalité, elle ne fonctionnait pas. Elle ne fonctionnait pas depuis longtemps. Et donc, je crois que la césure, ce n'est pas seulement avant et après Carlos Ghosn.
Natacha Polony.
Je pense que ce qu'il y avait de frappant cette semaine, c'est qu'on avait une opération de communication très réussie en effet, et qui visiblement a d'autant plus marché que les principaux commentaires qu'il y a eu étaient sur la personnalité de Carlos Ghosn, le fait qu'il avait réussi cette opération de communication, qu'il était impressionnant, et mon Dieu comme il parle bien, et mon Dieu il parle plusieurs langues. Or, le problème est que cette opération-là ne pouvait pas nous apprendre grand-chose pour une raison simple. C'est que les éléments de défense de Carlos Ghosn sur les accusations qui lui sont faites au Japon, ce sont des éléments dont peu, pour l'instant, ont été mis en place parce que ça va être l'objet, justement, d'un travail judiciaire. On ne sait pas, pour l'instant, exactement ce qu'il en est des malversations supposées de Carlos Ghosn. Mais en revanche, ce qu'il y avait d'intéressant dans cette conférence de presse, c'est le fait que Carlos Ghosn, lui, a axé, et on le comprend parfaitement, sur un élément qui était l'élément premier, c'est-à-dire le constat que par-delà les malversations possibles qu'il ait commis, nous sommes dans une guerre économique. Et que dans cette guerre économique, Gilles disait, l'alliance Renault-Nissan était plus ou moins factice. C'est-à-dire que vous avez un pays comme le Japon, qui est un pays patriote, voire nationaliste.
Le Japon,
en tout cas, oui, bien
pas
sûr.
La France.
Alors, la France n'est pas particulièrement nationaliste dans sa pratique commerciale et industrielle. Hein. C'est même plutôt totalement l'inverse. Nous sommes un des pays qui cultive cet art de ne pas protéger ses entreprises. Donc, nous avions là, et d'ailleurs, dans un sens, c'est peut-être parce que Emmanuel Macron est sur une ligne un peu complexe que tout ça est arrivé. Alors, dans la mesure où Emmanuel Macron, en tant que ministre de l'économie, a poussé pour l'intégration finale de Renault et de Nissan, en gros la fusion. Carlos Ghosn prétend qu'il n'était pas pour, qu'il était plutôt à l'époque assez réfractaire, et qu'en fait il est victime de cela. Et c'est ce point-là, moi, qui me semble intéressant, parce que bon, évidemment il y a le volet judiciaire, est-ce qu'il est un homme honnête ou pas, est-ce, en tout cas il est...
Pour reprendre
le terme de Gilles, il est pour le moins avide, ça c'est clair. Mais la question est celle de savoir comment deux pays réussissent ou non à la fois s'ouvrir à l'autre et préserver leurs intérêts. Or, visiblement, dans ce jeu-là, la France n'a pas été très douée, puisque, souvenez-vous, quand Carlos Ghosn a été arrêté, c'était le fruit d'une enquête de plus d'un an dans laquelle jamais les autorités françaises n'avaient été mises au courant. Et c'était un travail conjoint entre Nissan, le ministère de la Justice et le ministère de l'Économie japonais, parce que eux, ils travaillent main dans la main.
Encore un mot, Gilles.
Oui, s'agissant du Japon, il y a la spécificité de son rapport aux entreprises et de ce nationalisme économique qu'évoque Natacha et qui, de fait, est une singularité japonaise par rapport au pays de l'Union européenne en général et à la France en particulier. Il y a une autre singularité qui n'est pas seulement une singularité japonaise, mais dans laquelle, pour le coup, il y a une singularité européenne qui est sur la justice japonaise et dans l'équilibre que l'on y voit entre les droits de la société et les droits de l'individu. Et ça, c'était un élément qui était très frappant et qui est ressorti aussi, pour le coup, que l'on comprend dans ce que disait Carlos Ghosn lors de sa conférence de presse.
Est-ce que vous avez compris sa fuite ?
D'un point de vue humain, je la comprends tout à fait.
Et vous, Natacha ?
Même chose, c'est-à-dire, d'un point de vue en effet individuel et personnel, il courait le risque de passer quand même un nombre d'années absolument énorme en prison. La justice japonaise n'est pas du tout comme la justice française. Elle est calquée sur le modèle américain, mais en plus coercitif, puisque à l'origine, c'est les principes sont ceux du système américain, mais avec une capacité pour le procureur en gros à mener totalement la danse et à, disons, gagner en général les procès, qui est quand même assez angoissante. Donc on peut comprendre qu'il ait cherché à fuir. Après, d'un point de vue juridique, moral, etc., voilà, la fuite d'un justiciable est problématique, point.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
On est dans un chagrin profond qui partira jamais, mais pour l'honneur de mon père, j'aimerais que justice soit faite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'ennemi. Mon seul ennemi, c'est le désespoir et l'injustice. Parce que c'est des valeurs que mon père, il m'a inculquées. Malheureusement, il y a trop de vérités cachées, trop de choses camouflées. J'aimerais juste que les mensonges cessent.
C'était Sophia Chouvia, la fille de Cédric Chouvia, chauffeur-livreur, vous savez, qui est décédé la semaine dernière à la suite d'un contrôle de police à Paris, asphyxie, fracture du larynx. Le défenseur des droits s'est saisi de l'affaire et parmi les nombreuses questions qui sont posées par ce décès de Cédric Chouvia, il y a les méthodes d'intervention, certaines méthodes d'intervention des forces de l'ordre, la violence, la brutalité également. Qu'est-ce que Gilles, vous retenez de ce qu'on vient d'entendre de Sophia Chouvia qui réclame simplement que justice soit faite pour son père?
Que la lumière soit faite, que la justice soit faite. On comprend que ce soit la volonté de sa fille, mais c'est au-delà de sa fille, je crois, la volonté qui doit être celle de l'ensemble de la société. Parce qu'on est sur beaucoup des crises que nous devons auxquelles nous sommes confrontés sont des crises qui sont d'une certaine manière extérieures à nous. La crise climatique, la crise, la révolution numérique, la mondialisation économique. Là, il y a des choses qui ne dépendent que de nous. Que de nous. Et il y a une crise qui est un bon symptôme des tensions qui traversent la société française. D'abord, il faut s'interroger sur quelle est, y a-t-il, et quelle est la crise de confiance entre la France, entre les Français et leur police. Et j'ai été frappé quand j'ai regardé depuis 10 ans l'évolution de la confiance des Français envers la police. Qu'est-ce que l'on constate? Baromètre du Cevipof depuis 2010. C'est qu'il y a, on aurait pu penser qu'il y avait une première date qui était avant et après les attentats. Mmh. Et puis une deuxième date qui était avant et après les gilets jaunes et les violences que l'on a vues à ce moment-là. Tel n'est pas le cas. Il y a eu une progression de la confiance des Français envers leur police.
Depuis 10 ans.
Qui est aujourd'hui à un niveau élevé. Élevé dans l'absolu, vous avez près de 75% des Français qui ont confiance dans la police, et élevé en relatif par rapport à la défiance des autres institutions. Mais vous avez 25% des Français, ce n'est pas rien, qui n'ont pas confiance et qui expriment de l'inquiétude, voire de l'hostilité par rapport à la police. Et ce que l'on voit, manifestation après manifestation, fait divers après fait divers, montre qu'il y a un problème et qu'il faut se saisir de ce problème.
Mais qu'il y a un problème chez les policiers.
Alors, il y a un problème de violence.
Ou au ministère de l'Intérieur.
Alors, il y a un problème dans la société de violence. Et il y a maintenant, je crois qu'on doit le dire, un problème de violence des policiers et qu'il faut réfléchir au remède pour rétablir cette confiance.
Natacha Polony.
Oui, je pense que on a vu petit à petit dans le courant de l'année 2019 des dérives de plus en plus grandes et qui sont sans doute liées à un problème de commandement, j'allais dire, et d'organisation des forces de police qui ont eu à subir, bien sûr, des tensions, des difficultés, sauf que le pouvoir a été obligé de s'appuyer énormément sur ses forces de police pour tenir dans un moment où il refusait de gérer politiquement les choses. Et donc, il les gérait de façon sécuritaire. Ce qui a sans doute déstabilisé le rapport entre le pouvoir et la police, qui a déstabilisé l'organisation même de cette police.
Vous n'y voyez pas un choix de changer de doctrine de maintien de l'ordre, en l'occurrence, en permettant ce qui n'était pas pratiqué avant?
Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a un déséquilibre et une trop grande, on va dire que la bride a été laissée sur le cou à certains policiers parce que il y a eu à gérer des tensions qui, évidemment, pour les policiers eux-mêmes, étaient difficiles, étaient violentes, étaient fatigantes, et que ce processus de déséquilibre et de trop grande, c'est pas de la liberté, mais disons d'abandon d'une gestion extrêmement stricte de cette question des bavures policières, sans doute explique l'augmentation tragique du nombre de violences policières. Il y a un processus qui nous échappe.
Gilles, comment expliquer juste d'un mot que, par exemple, les méthodes d'intervention qui ont entraîné la mort de Cédric Chouviat soient encore autorisées en France alors qu'elles sont interdites dans de nombreux pays et même dans des États américains où l'on sait que la police a les mains beaucoup plus libres qu'en Europe, en Californie par exemple, ou dans l'État de New York?
Oui, c'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas seulement un problème de commandement. Il y a un problème de commandement, mais il n'y a pas seulement un problème de commandement. Il y a un problème de confiance dans les techniques policière, la question des armes, quelles armes ils utilisent, et c'était la question des LBD que l'on a vu depuis les gilets jaunes, question de méthode, cette question du plaquage ventral qui a été à l'origine de la mort de Cédric Chouviat, et même au-delà des relations de la police avec ses concitoyens. Il y a une question de la confiance dans les contre-pouvoirs, qui aujourd'hui est principalement dans les mains de l'IGPN, de la police des polices, et dont à la fois l'indépendance par rapport à la police elle-même et la transparence des procédures, je crois, est de plus en plus interrogée. Et puis, il y a la question qu'évoquait Natacha Polony du commandement, c'est-à-dire des relations entre le pouvoir politique et l'administration de la police, avec ce sentiment qu'il y a quelque chose de vicié parce que l'État est en dette. par rapport aux policiers. Il est en dette morale avec une surmobilisation et un épuisement des troupes. Et il est en dette financière parce qu'il est dans l'incapacité de payer les heures supplémentaires. Et donc, il y a un rapport de force qui n'est pas un rapport de force sain entre le pouvoir politique et la police aujourd'hui.
En effet, c'est exactement ce que je disais. Et j'y ajouterais, en plus de la question de l'IGPN, la question de la justice. C'est-à-dire que quand on regarde la façon dont ont été traités d'un point de vue judiciaire toutes les bavures policières ou soupçons de bavures policières depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a quand même un problème. Et je prends pour exemple simplement ce cas où là, vous avez la vidéo de cette jeune Gilet jaune, je crois qu'elle s'appelle Mélanie, qui se prend un coup de matraque, qui reste assommée alors qu'elle est là, elle se prend une charge de CRS. Bon,
alors qu'elle ne représente aucune menace.
Elle ne représente aucune menace, elle n'est pas en train d'agresser. Je suis d'accord qu'il faut être prudent, qu'il faut savoir quelle est l'avant-vidéo, etc. D'accord. Mais tout de même, un non-lieu, ça me semble quand même, comment dire, un peu léger. Et ce n'est pas le seul cas. Et c'est pour ça que, évidemment, que la question de la justice sur cette affaire, ce qui va être fait, oui, nous avons tous besoin, et les citoyens français dans leur ensemble, ont besoin que la justice soit faite, et soit faite dans le calme.
Est-ce qu'il faut penser que le pouvoir est cynique ? Et qu'il est, en l'occurrence, extrêmement réaliste. Vous citiez ce chiffre. 75% des Français soutiennent les forces de l'ordre, Gilles. Très simplement, c'est vrai que ce qui peut choquer, à savoir des brutalités, de la violence chez les forces de l'ordre, finalement, ça choque qu'un quart de la population.
Alors, je ne parie jamais, moi, sur le cynisme. J'ai noté en août dernier que le président de la République, après le sommet de Biarritz, pour la première fois, il avait continué à refuser de parler de violence policière, mais pour la première fois, il avait dit qu'il fallait repenser certaines méthodes. Eh bien, nous sommes 6 mois après, et ça serait très intéressant de savoir où en est la réflexion pour repenser ces méthodes. J'ai la crainte que pas grand-chose ne se soit passé, mais j'attends de voir, et je souhaite que ce ne soit pas le cas.
À suivre dans le grand face-à-face de France Inter, le débat avec notre invité, le sociologue Jean Viard.
France Inter. Le grand face-à-face, le débat.
C'est un livre sur la paysannerie, la campagne, la nature et la révolution écologique qui commence. Un livre qui rassemble des textes qui furent les jalons d'une vie et qui aujourd'hui forment un tout. Pour à nouveau demander à la Terre de France, et d'ailleurs de nous donner à vivre, à penser et à espérer. Car la révolution verte sera une révolution végétale, en ville comme à la campagne. Là est possible la production renouvelée sans fin de nourriture, de vêtements, d'énergie et d'ombre, de l'eau pure aussi. Fin de citation. Ces mots, on les trouve dans un livre qui arrive en librairie, signé par l'un de nos grands sociologues. Le titre, Le Sacre de la Terre, c'est aux éditions de l'Aube. Et c'est passionnant pour réfléchir à la France de demain. La France de demain, c'est ce dont justement on va débattre jusqu'à 13h avec le sociologue Jean Viard. Bonjour.
Bonjour.
Le Sacre de la Terre, avec Michel Marié et Bertrand Hervieux, c'est un livre qui pourrait sembler inactuel, et qui pourtant est en prise avec les enjeux de notre époque. Avant d'y venir et avant de vous entendre échanger avec Natacha et Gilles qui ont lu le livre de près, ça commence par une réflexion très personnelle, une réflexion qui est liée à votre histoire, à votre lien avec cette terre qu'on sacre aujourd'hui.
Tout à fait. Moi, j'ai toujours en fait vécu à la campagne, si vous voulez. C'est mon univers. Je m'y suis d'ailleurs installé après 68 dans les mouvements. J'habite toujours au même endroit, d'ailleurs. Et j'ai jamais voulu... Vous voyez, moi, je suis à Sciences Po depuis 30 ans à Paris. Mais j'ai jamais eu envie, j'allais dire, d'habiter en face et de traverser la rue. J'avais envie d'habiter dans un village. J'ai un garagiste. Honnêtement, il est plutôt Front National. Enfin, j'aime bien ce milieu, cette vie dans ces milieux populaires. Et ce monde de la terre que je connais bien, ces paysans, souvent, ils sont archaïques. Ils peuvent être, même en termes techniques, n'en parlons pas tous, etc. Mais ce rapport à la terre, vous savez, la terre, c'est un endroit où vous travaillez tous les ans au même endroit. C'est une pensée profondément méditative, au fond. Et souvent, les parents y ont travaillé avant. Vous passez devant le monument aux morts, c'est le nom de vos ancêtres. Vous allez au cimetière, vous reconnaissez tous les gens que vous avez connus. Et donc, c'est une chose très différente de la ville. La ville, quelqu'un meurt, il est remplacé par un jeune, la vie continue. Dans un village, il y a des tas de gens que vous connaissez de vue. Et en fait, vous ne savez pas qui c'est, mais vous les voyez vieillir, grandir et mourir.
Mais la paysannerie, Jean Viard, c'est un monde qu'on décrit souvent comme un monde englouti. Et en l'occurrence, pour vous, et vous l'écrivez, la paysannerie est à nouveau l'avenir du monde. Et ça, c'est, j'aimerais aussi qu'on en débatte. Expliquez-nous d'abord cette thèse-là, ce fil rouge qui parcourt le livre.
On va dire simplement, la révolution industrielle avait mis la paysannerie dans l'archaïsme. En gros, ce qui était moderne, c'était l'usine, la technique, c'est tout ça. C'est ça qui s'est construit depuis un siècle et demi. Et notamment parce que l'énergie n'était plus issue du territoire, ce qui était le cas des anciens modèles, où c'était les paysans qui produisaient leur propre énergie, les chevaux, l'herbe, etc. Et au fond, aujourd'hui, avec la fin des énergies non renouvelables comme projet, et à nouveau, on va produire l'énergie là où on habite. Et donc, au fond, les paysans, ils ont toujours travaillé le renouvelable. Tous les ans, ils renouvellent leur activité. Ils travaillent avec l'eau, avec le soleil, avec le vent, avec le sol et avec les cultures locales. Le sol, c'est pas un espace technique, c'est des lieux qui ont de l'identité, qui ont du patrimoine mémoriel. Chaque village est différent, ce que j'ai voulu montrer au début. Ça, j'analyse 4 villages pour montrer comme ils sont différents alors qu'ils sont tout proches.
Et que la paysannerie, ce n'est pas un monde uniforme, mais en l'occurrence, juste un mot encore sur le titre, le sacre de la terre, sur ce que vous écrivez. La terre doit être éternelle, l'éternité est sous nos pieds. Vous savez très bien que parler de la terre de cette manière-là peut éveiller des réflexes immédiats dans la tête de beaucoup qui vont réfléchir et penser à Barès, qui vont penser à des auteurs qui, justement, cultivaient la terre pour justifier le conservatisme, pour justifier des thèses réactionnaires, éventuellement même pour exclure ceux qui ne sont pas de ce sol-là, qui ne sont pas des autochtones, qui sont des étrangers.
J'aurais tendance à dire que je valorise plutôt le nationalisme du sol contre le nationalisme des frontières, si vous voulez. Moi, le nationalisme des frontières, comme on dit, c'est la guerre, c'est une opposition. Mais travailler son sol, le connaître, bien sûr qu'il y a une dimension conservateur. Connaître une culture locale, quelque part, c'est conservateur. Mais je pense que c'est une valeur positive si on l'associe à l'hypertechnologie moderne, à l'écologie dans ses nouvelles savoirs, etc. Bien sûr, mais la question dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de donner de la protection symbolique aux populations, à tout le monde, on le voit bien. Si on ne sait pas produire un nationalisme du sol et des cultures locales, on aura un nationalisme des frontières, on aura le Brexit, on aura Trump.
Natacha.
Oui, je crois exactement que c'est la question, c'est celle du vrai droit du sol, c'est-à-dire la capacité à comprendre le lieu où l'on est. Et donc, à s'y adapter, je pense que n'importe quel être humain, quand il arrive sur un sol, s'il le comprend, peut s'adapter, ça s'appelle l'intégration, et la meilleure qui soit est en effet par le sol. Mais je trouve ce livre absolument passionnant parce qu'il pose tous les problèmes qui sont les problèmes les plus actuels. C'est-à-dire non seulement la question bien sûr écologique, c'est-à-dire comment fait-on pour ne pas, oui, mais qui me semble essentielle, la question de savoir comment on fait pour ne pas détruire cette petite couche qui entoure la planète et sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Mais derrière, il y a la question aussi qui est totalement oublié et qui a ressurgi politiquement ces derniers temps, qui est la question de l'aménagement du territoire à travers le problème du rapport entre les métropoles et les campagnes. Et ce phénomène qui est apparu au milieu du XXe siècle, qui est ce qu'on appelle le périurbain maintenant, c'est-à-dire en fait la capacité à vivre à la campagne sans savoir absolument où l'on est. Et je pense que c'est là la question philosophique qui est derrière, c'est notre capacité à habiter le monde, c'est-à-dire à le comprendre.
Jean Viard.
Il faut bien se dire que même les paysans ne sont pas tous nés là où ils travaillent. Une culture locale, ça s'apprend. D'ailleurs, au début, j'étais dit 4 villages qui ont en fait été repeuplés par des Vaudois en 1492. Donc, par définition, c'était des migrants, on va dire. Oui. Des migrants vaudois et en plus protestants. Donc, enfin, pré-protestants à l'époque. Donc, ça montre que un sol s'apprend et se transforme en amenant sa culture avec soi. Mais ce que vous dites est central. Moi, je suis un grand adversaire des 63 000 ronds-points qu'on a construits dans ce pays. C'est-à-dire, on parle toujours de la ville, on tape toujours sur Pompidou, les voies sur berge. D'accord. Mais on a surtout détruit ce qu'il y a autour de la ville. On a fait 63 000 ronds-points, des kilomètres de voies rapides, on a mis 16 millions de maisons avec jardins alors qu'il n'y a que 13 millions d'appartements et on les a posés à des endroits où les gens ne disent pas j'habite telle commune. J'achète 800 mètres carrés ou 1000 mètres carrés à une heure de mon boulot, j'ai calculé avec le travail de mon conjoint et l'école de mon gamin. Et puis il y a un supermarché pas loin. Ils savent pas où ils sont. La carte démocratique a été tuée. La meilleure preuve, les églises sont vides, mais les mairies sont vides. Et les gilets jaunes, ils étaient sur les ronds-points. Ils sont pas allés à la mairie. Donc, quelque part, on a tué la citoyenneté de ce territoire-là. Et le grand enjeu devant nous, c'est de le reconstruire. Si on ne sait pas reconstruire un territoire, redonner du sens aux lieux, l'esprit des lieux, c'est essentiel. Quand vous avez un village magnifique, vous mettez 4 ronds-points, des voies rapides et des parkings, il reste rien. Vous avez un tout petit village au milieu d'un système de circulation. Vous avez constituer l'esprit des lieux. Il faut pourquoi ? Parce qu'on a tous besoin d'identité. Et le territoire est un des lieux d'identité. Un des lieux, pas le seul, sinon on se ferme. Moi, je suis un homme très ouvert sur le monde. Mais oui. On a besoin de ça.
Gilles Finkelstein. Oui.
Alors, moi, j'ai trouvé ce livre également passionnant comme Natacha.
Et même vous qui êtes progressiste.
Même moi qui suis
progressiste. La dimension conservatrice mais ne vous a pas choqué, heurté, gêné.
Il est progressiste, ce livre.
Mais parce que c'est un livre qui est un livre, d'une certaine manière, qui est aussi un livre révolutionnaire. C'est un livre qui est rétrospectif, en ce sens qu'il y a 50 ans de réflexions qui sont condensées, mais c'est un livre qui est extrêmement prospectif.
Oui, en ce que... c'est pour ça que je parlais de la France de demain.
En ce qu'il dit, je cite, c'est dès l'introduction, la légitimité dominante aujourd'hui, c'est la nature. Et c'est autour de ça, je crois, que se construit toute cette réflexion, et c'est ce en quoi je crois qu'il est révolutionnaire. Quand Natacha disait tout à l'heure, la question, une des questions centrales que vous posez est celle de l'aménagement du territoire, je voudrais prolonger cette question-là en vous interrogeant sur le rapport à notre espace que vous avez commencé à évoquer. Quelle est pour vous la bonne grille de lecture de la France aujourd'hui ? Dans le débat public, s'est beaucoup imposé l'idée qu'il y avait les thèses de Gulli,
les fractures françaises.
Voilà, avec la France périphérique et les métropoles. Est-ce que cette grille de lecture vous paraît juste ? Et puis, dans le prolongement, une deuxième question, vous venez de l'évoquer. Quelles conséquences politiques on tire de ce que vous évoquez, notamment sur ce qui est une des spécificités de notre pays, qui sont ces 33 000 ou ces 35 000, on ne sait pas exactement, je ne sais plus, je crois
commune.
Qu'il y en a un peu plus.
Ça commune. A changé dernièrement, il y en a qui bon. Fusionnent.
Alors, voilà. Réponse à la première question, Jean-Vierre.
Oui, d'abord, ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire, la question, c'est comment la culture se saisit de la nature. Le culte de la nature, on l'a vu, y compris, excusez-moi, mais en Allemagne, dans certaines époques, le nazisme, etc. Donc, la nature n'est pas la règle. La règle, c'est comment l'homme cultive un nouveau rapport à la nature et le transforme. Et c'est ça la question, c'est pour ça que je montre la richesse des cultures locales, etc. L'homme fait culture de la nature. C'est ça. Il faut le faire d'une autre manière. Avant, on croyait effectivement qu'on pouvait maîtriser la nature suivant la formule classique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on doit effectivement dialoguer avec la nature.
Enfin, le modèle agricole français est encore celui-là. Très largement, il y a une conversion au bio qui se fait petit à petit. Ouais, il y a les paysans que vous décrivez, ceux que vous rencontrez dans votre vie, dans votre travail de chercheur et de sociologue, mais la paysannerie aujourd'hui, elle est quand même très largement dominée par de très grandes exploitations et par une manière industrielle de produire les produits qu'on mange, qu'on boit.
Vous posez deux questions différentes tous les deux, donc c'est pas très simple. Je vais répondre à Ali Badou d'abord. Oui, vous avez raison. Le problème, c'est que la France est le seul pays qui a construit son modernité sur l'agriculture. On a fait une réforme agricole en 1789, on a partagé les terres pour aller vite. Ensuite, en 1870, on a enraciné la République dans les campagnes pour lutter contre les révolutions urbaines et ouvrières, en faisant 500 000 élus locaux, auxquels on a rajouté 500 000 types à la SNCF après. Donc il y avait quand même 1 million de gens des campagnes, soit à la SNCF, soit les élus locaux, qui ont maillé au fond la France du XXe siècle. Bon. Et cette carte-là, si vous voulez, c'était un projet. Et ce projet, c'était politique. Ensuite est arrivé Pisani, pour aller vite, on va dire, et De Gaulle. Et ils ont dit, attendez, les colonies indépendantes, on se nourrissait avec les colonies à l'époque. C'est pour ça qu'on a dit aux paysans, soyez nombreux et pas productifs. Mmh. Ensuite, on leur a dit, à partir de 62, soyez productifs et pas nombreux. On est passé de 3 millions de fermes à 500 000 fermes. C'est la politique du gaullisme. Et on est devenu indépendant. Et on a bien mangé et on a nourri les autres. Donc, je veux dire, ils ont réussi. Mais ils ont réussi comment ? Sur un modèle technique, chimique, et en agrandissant leurs fermes, au détriment de leur famille. Il ne faut jamais oublier que la plupart du temps, c'est les terres des cousins. Les paysans tiennent encore 52% du sol de France, dont 54% à peu près sont à GAEC. Souvent, c'est simplement qu'on a gardé la terre des cousins, des frères qui sont partis. On leur a dit, écoute, mon chéri, je reprends la ferme et on met les terres dans les GAEC. Voilà, bon. Donc, on est dans ce modèle-là. Et depuis, on n'aura pas proposé autre chose. Il n'y a pas de nouveau modèle politique. Moi, quand je discute avec la présidente des organisations agricoles, c'est un monde que je connais beaucoup. Ils attendent, au fond, qu'on leur propose un modèle. Et si vous prenez, quand le président Macron s'est présenté, il a dit, je mets 5 milliards de côté pour la mutation agricole. J'ai tendance à demander où ils sont passés. Parce que une ferme, vous investissez sur 30 ou 40 ans, vous vous êtes agrandi, vous avez acheté 1000 hectares, vous avez acheté des tracteurs 4x4, 4 roues motrices, pas les 4x4, pas exagéré, 4 roues motrices.
Oui.
Et d'un coup, on vous dit, c'est plus le modèle. Tu dis, d'accord, je veux bien, mais qui appure mes dettes ? Personne. Si on n'appure pas les dettes d'un grand nombre de fermes, on peut pas le faire. Et deuxième chose, on ne parle jamais de formation des agriculteurs. On parle de formation dans tous les métiers. Moi, mes salariés dans ma maison d'édition, je dois surveiller qu'ils ont fait leurs heures de formation. Les paysans d'aujourd'hui ont besoin d'être formés aux nouvelles techniques, aux nouveaux savoir-faire, aux nouveaux équilibres économiques.
Et alors, sur la question de Gilles, la grille de lecture, est-ce que vous partagez cette analyse que formulent d'autres sociologues, la France périphérique, par exemple, l'archipel français?
Alors moi, j'avais écrit un livre qui s'appelait « La société de l'archipel » à 20 ans, donc je ne vais pas te dénombrer, c'est un concept que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, Pierre Weiss a aussi fait un livre « L'économie de l'archipel » au milieu des années 90, on l'a publié la même année. L'idée qu'on est passé d'une société de classe à une société d'archipel, je ne peux pas dire le contraire, puisque je l'ai écrit à 20 ans, et ce que dit notre ami Jérôme Fouquet, et je suis absolument d'accord avec cette perspective.
Fourquet,
excusez-moi, je suis pas toujours très bon sur les noms. Donc ça, c'est vrai. Mais après Guilly, le problème de Guilly, c'est que c'est en termes de com, il a réussi quelque chose, de montrer qu'il y avait un problème entre la ville et la non-ville. Donc je dirais, comme homme de com, je reconnais le propos. Comme réalité sociologique, non. Parce que le cœur de la pauvreté est à l'intérieur de chaque territoire, et le cœur de la pauvreté est dans les grandes villes. Donc je veux dire, l'idée que la pauvreté entoure la ville, c'est oui et c'est non. Il y a des endroits où c'est pas vrai, il y a des endroits où c'est vrai, il y a des endroits de relégation. C'est vrai que le sentiment d'abandon, et là, toutes les études le montrent, à 20 km d'une gare, le vote FN double à peu près. Donc le sentiment d'abandon est réel. Y compris parce que, le problème, c'est que les gens font 50 km par jour, et que donc, au fond, les services publics, on voulait s'adapter à ça. C'est-à-dire, en gros, fermer partout en disant, si vous faites 50 km pour aller au supermarché ou travailler, ben, on va aussi regrouper. Sauf que les gens, c'est pas du tout ça qu'ils veulent, on l'a bien vu sur la poste, etc. Donc, il faut reconstruire une armature. Mais si vous voulez, c'est là où il est trop simpliste, son discours. Et en plus, la population française glisse vers les littoraux, comme dans tous les pays, vers les lieux touristiques et culturels. Nantes gagne, Rennes gagne, Amiens recule, Sedan recule. Donc, il y a, vous voyez, on peut pas faire un modèle unique, parce que qu'est-ce qui fait le désir des populations? C'est d'aller habiter à des endroits qui sont valorisés comme agréables. Et ceux qui peuvent le faire le font. Et ceux qui ne peuvent pas restent. Le Nord-Pas-de-Calais, les jeunes restent et les vieux prennent leur retraite au sud.
On reviendra à la traduction politique, mais d'abord Natacha.
Oui, un mot. Enfin, on ne va pas débattre justement du travail de Christophe Guilluy. À mon avis, il ne se résume pas seulement au fait de dire que la pauvreté est à l'extérieur des villes. Mais justement, la question, c'est celle du lien entre cet aménagement du territoire, cette conception de la mobilité et un système économique. Parce que toute la difficulté est là. Il s'agit non seulement d'une évolution vers une technicisation du rapport à la terre, c'est-à-dire à travers le remembrement qui est le meilleur exemple, où on a détruit même des savoir-faire, où on a détruit la capacité de paysans. Et on avait des paysans qui savaient que telle parcelle était la bonne pour terminer une vache avant de l'emmener à l'abattoir, etc. On a tout uniformisé. On a tué là, non seulement toute une construction sociologique, familiale, mais aussi des savoir-faire. Et Edgar Pisani, à la fin de sa vie, a expliqué que c'était la plus grosse erreur qu'il ait faite. Mais du coup,
dans son livre, une économie, une agriculture marchande et ménagère.
Exactement. Et derrière ça, derrière cette question de la mobilité, il y a un système économique qui en France, s'est fondé sur la grande distribution, qui a détruit petit à petit les PME de toutes les petites villes de province, et du coup, a éloigné encore plus le travail, a concentré dans les métropoles. Donc, le problème, c'est de traiter toutes ces questions-là en même temps pour reconstruire de la vie au sein de ces territoires.
Jean Viard.
Alors, je suis assez d'accord sur le diagnostic, mais je voudrais vous donner trois chiffres qui, moi, me fascinent. 10% des gens vont mourir dans la commune où ils sont nés. 10%.
Seulement.
50% des gens vivent dans leur département de naissance. 60% des bébés naissent hors mariage. Et 4 milliards de gens sont sur Internet. Si vous mettez ces 4 chiffres à côté, je dis pas qu'ils sont en cohésion, vous vous rendez compte d'une rupture culturelle et pratique gigantesque, dont une bonne partie est un libre choix. C'est-à-dire qu'on fait à peu près 4-5 000 fois l'amour, nos grands-parents le faisaient 1000 fois, on a multiplié nos histoires, un mariage sur deux se défait avant 5 ans en Ile-de-France, etc.
On donc fait environ 4000 fois l'amour dans une vie.
On a multiplié par 4 en un siècle, cher ami. Mais la productivité s'est malheureusement effondrée puisqu'on fait moins de 2 enfants par femme, on était à 5 ou 6 avec 1000 relations. Donc on pourrait réfléchir à la productivité de la relation, mais c'est pas notre sujet ce matin, on est sur
la
l'agriculture.
Non, mais on peut se féliciter au moins
de l'inutilité et de la beauté du geste.
Voilà. Non, mais attendez, on est dans une société, moi on dit toujours que je suis un sociologue optimiste. On a gagné 20 ans depuis 45, 8 ans depuis 80, 2 ans les 10 dernières années d'espérance de vie en moyenne. Donc on peut discuter de tas de choses, et en gros les femmes choisissent à peu près le nombre d'enfants qu'elles veulent, à peu près. Donc c'est quand même les deux fondamentaux d'une société qui fonctionne pas mal. Je le répéterai toute la journée, je sais que c'est pas toujours très bien. Mais je veux dire une autre chose sur les métropoles pour répondre à Madame Polony. La révolution numérique c'est 2007, l'année de l'invention de Twitter. Et quand on a eu la toile, on s'est dit on est tous sur la toile. On s'est dit bah c'est bien, on peut tout faire partout. C'est vrai. Sauf que là où la toile croise la densité urbaine, il y a eu une explosion de création de richesses. Parce que vous connectez quelqu'un et une heure après, vous le rencontrez pour faire business. Vous voyez une exposition, vous pouvez y aller tout de suite. Moi, quand je suis dans mon village, quand je vois un truc intéressant à Paris, j'y vais la semaine d'après. Donc du coup, les 200 métropoles du monde accélèrent la création de richesses. Et une dernière chose, la question, c'est comment on va organiser une société horizontale. Il faut pas tuer le moteur de la richesse, on va pas fermer les mines. La question, on a une mine, la mine c'est la métropole. Le problème, c'est comment on organise des archipels dans les entreprises, dans nos modes de vie, pour avoir un pied en métropole, un pied à l'extérieur. Certes, et c'est ça qu'on a mal fait.
Certes, mais premier point, vous avez dit, ça relève de choix en fait individuels. Oui et non, c'est-à-dire
en
que quand vous, quand vous avez des gens, des jeunes qui partent d'un territoire, ils partent parce qu'il y a plus de travail, ils choisissent de partir, mais ils partent
pas seulement parce qu'il y a plus de travail, parce que le mode de vie ne correspond pas forcément à leur.
Oui, mais le mode de vie pourrait correspondre si justement il y avait un bassin économique local, ce qu'il n'y a plus. Et deuxième chose. Quand vous dites que le numérique nous a semblé uniformiser les choses, oui, à ceci près qu'on est seulement
pas
en train de commencer.
Moi j'ai dit mettre en contact.
Oui, mais on peut reconnaître à ce gouvernement une chose, c'est qu'il est en train d'œuvrer sur la question de la fracture numérique, tout doucement, mais tout de même, quel temps perdu. C'est-à-dire que ça a mis en contact des gens, mais vous avez quand même encore aujourd'hui des tas de territoires, de pans entiers du territoire qui ne sont pas connectés. Donc l'aménagement du territoire, c'est aussi ça, c'est le rééquilibrage des inégalités.
Non, sur là-dessus, vous avez raison. Juste un mot, mais la Fondation Jean Jaurès a publié une étude tout à fait passionnante sur l'imaginaire des jeunes et comment ils se projettent. Et clairement, on voit qu'un jeune de la campagne, il a moins d'ambition qu'un jeune de la grande ville. Parce qu'au fond, vous habitez à la campagne, vous regardez votre sous-préfecture. Vous habitez la sous-préfecture, vous regardez la métropole. Et vous habitez à la métropole, vous regardez.
Pourquoi moins d'ambition ? On peut avoir grandi dans le bocage bourbonnais et avoir envie d'être vétérinaire.
L'étude de Jean Jaurès est passionnante. Il se raconte sa vie comme ayant.
Et on peut avoir envie d'ouvrir un restaurant ou d'être paysan, et c'est une
vrai, mais il se raconte sa vie comme ayant moins de chances, moins de possibilités. Je dis pas que c'est vrai. Pour ça que moi, l'autre jour, j'ai ouvert le congrès des coopératives. Je leur ai dit, faites voyager vos jeunes. Un jeune de la campagne, envoyez-le au Japon. Ne croyez pas que c'est que pour les Parisiens. C'est-à-dire qu'il faut plonger les jeunes, y compris du rural, dans notre société de mobilité. Ils reviendront en ce moment-là au village.
Gilles Finkelstein.
Ali Badou évoquait tout à l'heure la question de l'agriculture. Vous avez mis les grands jalons, 1789, 1870, 1962. Vous n'évoquez pas la politique agricole commune, qui est un élément absolument majeur, dont le New York Times, dans une enquête, une très grosse enquête récente, a adressé le procès. Et là où je disais que votre livre est intéressant, sur l'agriculture, vous dites il faut être conservateur culturel et innovateur scientifique. C'est-à-dire que cette idée que l'image que vous utilisez, c'est que c'est comme si on rentrait dans une pharmacie et qu'on commandait tous les médicaments pour toutes les maladies qu'on utilisait d'un coup et que l'agriculture devait évoluer et que le problème était moins l'agriculture que les agriculteurs qui devaient s'adapter à cette nouvelle situation. Ça veut dire quoi, une politique agricole française et européenne dans ce nouveau contexte ?
J'en viens.
Si vous voulez, c'est vrai que la politique agricole commune a été projeté par la culture française à cause de notre histoire, c'est-à-dire la première chose du politique, c'est de nourrir le peuple, ce qui est d'ailleurs fondamental depuis les Égyptiens, etc. On sait très bien que c'est la première question, c'est nourrir les populations. Et là où les gens meurent de faim, c'est en général parce que l'État est déficient. Donc faut avoir ça dans la tête, bien sûr. Et donc on a construit l'Europe sur ce socle. Et on l'a construit sur une logique de territoire. Et sur des primes à l'hectare, etc. Donc on a poussé à l'agrandissement des exploitations, etc. Bon, ça c'est clair, je pense que ça c'est un modèle sur lequel il faut profondément revenir. C'est compliqué parce que les équilibres économiques, et je vous rappelle qu'une des bonnes nouvelles quand même, c'est qu'avec le Brexit, le premier propriétaire foncier d'Europe quitte l'Union Européenne, c'est la reine d'Angleterre, qui avait tous les ans la plus grosse subvention du PAC.
C'est une bonne nouvelle.
Ça fait un gros dans la caisse, ça fait effectivement sortir un trou. Je dis pas que le Brexit est une bonne nouvelle, mais je dis que le fait que la reine d'Angleterre n'ait plus une grosse subvention agricole de l'Europe...
Non, mais c'est pas elle
Il reste Monaco.
Écoutez, comme politique agricole commune, Monaco, vous voyez, c'est très limité.
Non, il possède des terres.
Ah oui, on est dans un enjeu absolument majeur, je suis d'accord avec vous. Alors d'un côté, on a le développement de l'agriculture urbaine, c'est très intéressant d'un point de vue symbolique. Disons que ça va faire 2 à 4% de la nourriture. Juste une chose, Paris mange 1 200 000 œufs par jour. Alors moi, je suis pas contre qu'on mette des 1 200 000 poules dans la ville, mais je crois qu'on va pas le faire. Donc faut pas mélanger l'agriculture urbaine, qui est un lieu central de lien, qui est un lieu central de vie de quartier, de lutte écologique contre la chaleur, et le fait qu'on a besoin des agriculteurs. Or, en ce moment, il y a un rejet des agriculteurs, alors que...
votre livre, c'est un formidable antidote à l'agribashing, comme on dit.
Tout à fait, parce que si vous voulez, d'abord sur 440 000 fermes, il y en a 92 qui sont déjà passées au bio. Donc faisons attention. Après, il y a effectivement une partie de l'agriculture qui est encore dans un modèle archaïque, chimique, qui tend à s'agrandir. Donc là, il y a un énorme problème. Et puis il y a tous ceux qui essayent de ramer entre les deux. Il y a toute l'agriculture raisonnée, etc. C'est pas simple. On peut pas dire que les paysans n'ont rien changé, ça serait faux. Mais effectivement, ils changent, j'allais dire, moins vite que ce que la société attend. On le voit bien. Et c'est là où il faut qu'on accélère. Il faut faire un projet politique pour l'agriculture et le territoire. Et là, on a besoin d'un grand projet politique qu'on n'a pas.
Est-ce que je peux faire part de mon étonnement? Comment est-ce que vous, qui êtes Macron compatible, pour le dire rapidement, candidat LREM aux législatives, comment est-ce que vous pouvez être d'accord sur un diagnostic aussi essentiel sur notre société avec Natacha, par exemple?
Avec Natacha, je ne comprends pas. Ça dépend. Non, mais si vous voulez sûr,
non, mais ça fait rire Natacha. Gilles sourit également, et moi, je dois avouer ma perplexité,
Monsieur,
puisqu'on est en train de parler du fond de ce que doit être une politique et de la France de demain.
La pensée macronienne n'est pas née du territoire. C'était un peu une pensée hors sol. D'ailleurs, c'est des gens qui, en plus, n'avaient pas d'expérience territoire locale de la politique locale, ce qui n'est pas mon cas, puisque j'ai déjà été conseiller municipal de Marseille. Donc, si vous voulez, on peut dire que, d'une certaine façon, y compris la crise des Gilets jaunes, c'est ce qui leur a fait, on leur a dit, attendez, le territoire existe. Là, il y a des gens, il y a des ronds-points, il y a des gens dessus. Donc, au fond, ce qui manque à la pensée du monde macronien, c'est justement la pensée du territoire et de l'agriculture. La question, c'est, est-ce que la rupture des Gilets jaunes leur a fait suffisamment prendre conscience que là, il y a un enjeu majeur? Et je vais vous dire, c'est, y compris majeur pour leur réélection. Parce qu'effectivement, on a besoin d'une pensée du territoire, on a besoin d'une nouvelle pensée agricole, et c'est un des grands enjeux, parce qu'on a besoin de recréer du commun. Vous savez,
Vous avez envoyé votre livre au président de la République ?
Naturellement. Il faut dire aux enfants, aux jeunes, tu pourras vivre dans ce pays dans un siècle ou dans deux siècles, parce que grâce à une agriculture repensée, effectivement, comme vous l'avez dit, on pourra te nourrir, t'habiller, capter le carbone, gérer les écosystèmes.
La repensée locale.
Absolument.
Encore une fois, il y a une question économique et une question culturelle. La question économique, c'est que les paysans qui, en effet, pour beaucoup, sont en voie de conversion, il faut les aider par la formation, il faut les aider, qui sont en train de chercher des solutions parce que un système les a mis dans le mur. Mais ils sont confrontés à une concurrence déloyale. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple, des normes environnementales tout à fait justifiées qui permettent de préserver les sols, qui permettent de produire correctement, mais que vous êtes en concurrence par la grande distribution, avec des produits qui viennent de pays où il n'y a absolument pas les mêmes normes, vous ne vous en sortez pas. Et en fait, c'est ça que disent actuellement une grande part des paysans.
Oui.
Et deuxième chose sur la question culturelle, derrière, il y a la question de la connaissance du territoire. Vous disiez tout à l'heure, il faut dire aux gens, envoyez aux ruraux en particulier, envoyez vos enfants au Japon, etc. Je ne connais que des paysans qui ont leurs enfants en Australie, au Canada.
Ça,
c'est hallucinant. Moi, je ne vois que ça autour de moi. Il y en a beaucoup, beaucoup, en proportion.
Vous militez pour l'inverse.
Sauf que c'est pas ça. Non.
Que les urbains.
Je milite.
Pas
pour que les urbains aillent à la campagne, pour que tous les jeunes Français connaissent la France. C'est-à-dire, et je pense que Jean Viard ne me démentira pas, l'idée qu'on...
Je veux pas pour le voyage en France à 16 ans obligatoire, pendant 15 jours, au début du service civil obligatoire.
Voilà,
c'était
parce qu'on ne peut pas aimer, exactement, on ne peut pas aimer un pays qu'on ne connaît pas.
Je suis d'accord. Juste un point. Regardez ce qui se passe en Allemagne en ce moment, la lutte des agriculteurs allemands sur ces sujets. Donc la question, elle n'est pas française.
Non,
il y a moyen de faire un projet européen parce que c'est les mêmes questions.
Évidemment.
En agriculture, en Allemagne, il y a à peu près 600 000 personnes dans l'agriculture, nous 800 000.
Ils ont industrialisé
massive. Mais ils ont eu un ministre de l'agriculture écologique. Je m'excuse, mais si en France on a eu un ministre de l'agriculture écologique, à mon avis, il aurait appris à nager dans la Seine.
Gilles Finkelstein.
dans notre rapport au territoire, vous avez évoqué tout à l'heure la place de la grande distribution, des grands centres commerciaux, et je voudrais faire le lien avec la dimension économique que vient d'évoquer Natacha. Dans cette nouvelle agriculture dans laquelle il est très important que le vrai prix des choses revienne et que les agriculteurs puissent être rémunérés, est-ce qu'il faut recréer et comment un rapport de force avec la grande distribution pour que la rémunération, y compris d'agriculture plus petite, soit retrouvée, ou est-ce qu'il faut passer à côté en développant un nouveau modèle de circuit court dans lequel la grande distribution n'occupe plus la même place?
D'abord, il n'y a pas un modèle agricole. Les exploitations bio, en général, s'en sortent mieux. Les exploitations qui transforment, que ça soit dans le vin, dans le fromage, regardez ce qui se passe avec le comté, ça marche bien, regardez ce qui se passe avec le roquefort, ça marche très bien aussi. Donc il y a plein d'endroits qui marchent très bien quand on incorpore de la marge dans la transformation. Bon. Regardez ce qui se passe à Moinsartou, c'est un de mes villages test. Ils ont acheté
fabuleux,
leur ferme.
Moinsartou. Quoi? C'est une expérience fabuleuse. Fabuleuse.
Et moi, l'autre jour, j'ai vu la présidente de la FNSEA.
Décrivez-la d'un mot.
Non, mais en gros, c'est que la commune a acheté sa ferme. Et elle a des gens qui nourrissent toutes ses écoles à partir de sa propre ferme. Les enfants vont voir sur la ferme comment ça marche, etc.
Et c'est l'endroit de France où il y a le moins de gâchis alimentaires.
Tout à fait. Ils ont d'ailleurs refusé aussi un grand magasin. Mmh. On pourrait y revenir puisqu'ils ont refusé l'IKEA sur leur territoire. Mais bon, c'est un peu un village écolo. C'est un peu le dernier des Gaulois perdus au milieu d'une zone assez d'extrême droite et assez urbanisée, on va le dire comme ça. Bon. Mais l'idée, par exemple, de dire, il y a 36 000 villages. Pourquoi il n'y a pas 36 000 fermes qui nourrissent les enfants de leur village? Moi, l'autre jour, j'ai vu la présidente de FNSEA, je dis, tu devrais faire ça. Lance une ligne ferme scolaire. Il y a une ligne ferme bio. C'est-à-dire, il faut réfléchir. Comme il y a une ligne ferme urbaine. Il ne faut pas globaliser tout, parce que ce n'est pas vrai. Peut-être qu'après, il y a des produits qui vont être faits dans des grandes exploitations. Parce qu'il faut quand même...
Ou qui viennent d'ailleurs.
Mais pourquoi pas? Je veux dire, la question quand même, n'oublions jamais, c'est le prix de l'alimentation et sa qualité pour les milieux populaires. Moi, effectivement, et de plus en plus, la plupart d'entre nous...
Mais ça peut coûter moins cher de faire venir des fraises qui ont été produites à l'autre bout du monde que de...
Comme ça, vous ruinez les producteurs français qui sont au chômage et qui n'ont plus de quoi se payer des produits alimentaires corrects.
La question volontairement à Gilles et à Jean Viard, le progressisme et la pensée de gauche, c'est aussi l'internationalisme et c'est aussi l'idée que, par exemple, d'autres peuples, par exemple, de pays moins développés pourraient s'enrichir...
Ou de pays moins détropés, ou de développement, par exemple,
pourraient s'enrichir grâce à l'agriculture, par exemple, et grâce à l'exportation.
Oui, mais il faut penser l'ensemble du système avec ces systèmes de transport, avec ses coûts écologiques, etc. En soi, il y a rien. Je veux dire, s'il se trouve qu'en Amérique latine, il y a des vaches en pleine liberté, qui n'ont jamais de médicaments, et qui sont de bonne qualité et moins chères, ben peut-être qu'en France, on peut produire autre chose. C'est pas un souci. Je veux dire, bien sûr que c'est pas un monde fermé. On n'est pas dans un monde fermé. Mais effectivement, après, tout ce qu'on peut produire localement, produisons-le localement. D'abord, parce que ça crée une société locale. Vous savez, un village, on connaît les gens, on connaît le garagiste, on connaît le paysan, etc. Je veux pas plaider pour ça dans les villes. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire dans les villes avec les éco-quartiers, etc. Au fond, c'est un peu la même chose. On veut connaître ce que font les autres, etc. Vous savez, pour comprendre notre société, faut...
On crée des communautés.
Mais depuis la guerre, on a eu des résidences secondaires. Moi, je dis, on rentre dans la civilisation des bureaux secondaires. C'est-à-dire, effectivement, on a un bureau et puis on en a un autre à côté de chez soi. Et c'est vers ça qu'on va dans son quartier, où on a d'autres liens, dans la commune où on habite. Pensons bureau secondaire à la place de résidence secondaire. Ça modifie la lecture du territoire.
Gilles.
Oui, par ailleurs, pour revenir sur les fraises, on n'est pas non plus obligé de consommer des fraises toute l'année.
Et donc, comme manger des tomates.
Comme manger des tomates. Et donc cette réflexion sur la...
Beaucoup de tomates viennent de Belgique.
Sur la saisonnalité.
Ou du Maroc, ou du sud de l'Espagne.
Ou de Hollande, qui a industrialisé de façon massive.
Par exemple, regardez ce qui se passe au Maroc. Oui, mais ça permet, dans des tas de zones, le développement. Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Le monde est en partie commerce. Si on veut qu'ils nous achètent des voitures, il faut peut-être qu'ils nous vendent des tomates. Mais à ce moment-là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos producteurs à nous? Comment ça se transforme, etc. Donc, je veux dire, c'est pas la question d'être produit forcément en France ou pas en France, mais il est clair que la question dont on parle là, c'est d'abord l'utilisation de ce territoire, de lui donner de la vie et de lui redonner du sens là où il n'en a pas. Vous savez, les zones d'affrontement, c'est soit les zones du sud où les gens sont allés habiter nombreux, dans des zones agricoles, soit dans le grand périurbain. Vous allez au milieu de la Beauce, il n'y a pas de conflit.
Natacha.
Oui, la question de savoir, évidemment, personne ne dit qu'il faut produire uniquement local et couper tout le commerce international alimentaire. C'est absolument pas ça. C'est une question d'équilibre. Et surtout, c'est la question de la concurrence déloyale. C'est-à-dire, quand vous avez, par exemple, des producteurs de lentilles du Berry, je prends cet exemple-là, ils ont des normes qui sont des normes écologiques qui sont fondamentales. Oui, mais toutes les collectivités territoriales du Berry achètent de la lentille canadienne qui est produite avec des pesticides, qui ne respectent pas les mêmes normes parce qu'elle est moins chère. Là, vous vous dites qu'il y a un problème. Et j'ai rien contre les lentilles du Canada. Elles sont formidables. Non, mais c'est simplement que là, vous déstabilisez tout un écosystème. Non, et en effet, la question, elle est à la fois écologique et économique.
Il faut faire attention.
Jean-Pierre, et puis j'aimerais bien qu'on arrive à la situation politique actuelle.
Voilà, on va y arriver, mais juste un mot. Regardez ce qui se passe au Maghreb. La population augmente énormément. Les villes s'étendent dans ce qu'étaient les terres agricoles. Le Maghreb, sans le blé de l'Europe, il est en immense difficulté. Donc faisons attention. Je veux dire, nourrir les hommes, ça nécessite aussi. On a d'ailleurs avant, on se nourrissait avec le blé de Sicile, on a tous appris ça à l'école, les Romains, etc. et tout. Bah, donc, ayons aussi cette vision, il faut aussi que tout le monde ait à manger. Le sud de la Méditerranée, le blé européen est un atout majeur.
Mais l'enjeu aussi, c'est de préserver les terres arables partout, c'est-à-dire au Maroc, où en effet il y a une extension, et en France, où on bétonne l'équivalent d'un stade de foot toutes les 5 minutes depuis 15 ans.
Natacha, juste un mot de conclusion. Il faut sauver d'abord le sol avant les paysans. Il ne faut pas se tromper de métier. Il y a le sol de France doit être protégé. Moi, je suis pour la sanctuarisation des sols, comme l'ont fait les Suisses et les Canadiens. Et du coup, ça va obliger à densifier le périurbain. Il faut qu'on reconstruise de la ville sur le périurbain pour en faire de la vie. Il faut arrêter de prendre 100 hectares par semaine de terre agricole, alors que les Chinois se battent pour en acheter dans le monde entier.
Justement,
et nous, on le bétonne.
Même dans le bassin parisien, ce que j'ai découvert en lisant votre livre.
Mais bien entendu.
Et il faut leur interdire aux Chinois d'acheter des terres arables dans le bassin parisien.
Non, il faut interdire à personne si c'est la loi. Mais qu'est-ce que ça entraîne comme norme? Pour produire où? Pour faire quoi? Et vous vous laissez. Après, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Mais la protection du sol ou la compensation. Il y a des endroits où il faut peut-être construire quelque chose. Il faut pas être complètement idiot non plus. Mais qu'est-ce qu'on fait pour libérer d'autres endroits, pour faire des investissements pour l'irrigation, etc. Il y a des investissements énormes. Et d'ailleurs, la question de l'Afrique, c'est beaucoup de l'investissement. Oui.
Revenons en France et à l'actualité. En l'occurrence, vous cherchez à créer du commun pour la France de demain, essayer de réunir des territoires, des populations qui sont éclatées, fragmentées, archipélisées, pour reprendre ce terme-là. Mais quand on regarde aujourd'hui les discussions autour du système des retraites, pour ne prendre que cet exemple-là, qu'est-ce que vous en retenez? Que c'est un système universel qui pourrait créer du commun, ou que c'est au contraire l'individualisation de chaque cas, de chaque parcours, et que ça va encore plus diviser, fragmenter la société?
La question, c'était, avec cette réforme, de recréer du commun. Pour l'instant, c'est raté. On peut le dire comme ça. Bon. Donc la question, est-ce que cette réforme va arriver à créer un commun? On s'était tous raconté que la réglementation de 45 fonctionnait. En réalité, c'est faux, parce qu'elle est de 41. En fait, c'est Pétain qui a fait cette réforme, j'ai pas du tout la Libération. Mais enfin, ça fait rien. C'était le récit collectif qu'on avait. Bon. En plus, il a été fait à une époque où les hommes avaient des statuts et les dames étaient des compléments de revenus, si je peux me permettre. Il est clair qu'on n'est plus dans ce modèle, grâce à Dieu, et on va plutôt vers une égalité des revenus et vers des statuts des professions discontinues. Bon. Donc, c'était ça l'idée. La réforme sera réussie si on a, dans 20 ans, le sentiment qu'on a refondé un commun ensemble. Si c'est simplement qu'il y en a qui ont gagné et qu'il y en a qui ont perdu, on aura tous perdu.
Natacha, Gilles.
La question de refonder du commun est absolument essentielle, et la question est de savoir si ce gouvernement suit ce cours-là qui était le projet de la campagne d'Emmanuel Macron. Et pour revenir à votre blague de tout à l'heure sur la différence entre Jean Viard et moi, c'est peut-être que dans le discours sur la recréation du commun, moi j'avais un doute dès le début sur cette question de la réforme des retraites, sur la question de la loi Egalim qui voulait recréer du commun, c'était un projet formidable, ça a été détricoté. Donc à chaque fois, entre cette idée de départ, une réforme universelle à points, etc., et ensuite le fait qu'on s'obsède sur l'âge pivot, ce qui crée de l'inégalité, de l'injustice sociale, vous voyez, il y a un décalage entre le discours et la réalité.
Jean-Bierre.
Non, mais vous n'avez pas entièrement tort, mais je veux dire, je pense que la réforme est entrée dans le jeu du combat politique.
Elle n'a pas entièrement tort, mais Emmanuel Macron a raison.
Non, mais elle n'a pas entièrement
tort. Je dis de manière caricaturale.
Oui, non, mais elle n'avait pas confiance au début. Moi, j'avais plus confiance au début, donc je m'en cache absolument pas. J'ai défendu cette réforme dans la campagne, dans tous mes meetings. Donc, je ne vais pas changer d'avis. Je n'ai pas été élu, mais c'est parce qu'il faut dire que c'était à Carpentras. C'était une zone un peu difficile. Mais si vous voulez, ça, c'est vrai. La question, c'est pour ça que je dis, l'objectif, faut revenir à l'objectif. L'objectif, c'était donner de la confiance aux jeunes dans le fait qu'ils auront une retraite et que donc s'ils se battent pour être salariés, etc., ils auront une retraite. Et la deuxième question, c'était de créer du commun. Et c'était aussi de ne pas augmenter sans arrêt les charges sur ceux qui travaillent. Parce qu'on est dans un pays où c'est peut-être désagréable à entendre, mais la moyenne des retraites est légèrement supérieure à la moyenne des... Il y a des retraités pauvres, il y a des retraités malheureux. Je sais, je dis ça parce que je vais avoir 208 si je dis ça. Mais de fait, une société, effectivement, c'est une solidarité entre les générations.
Et l'un des premiers débats a porté justement sur les retraites des paysans, des agriculteurs.
Mais bien entendu, qui effectivement... Et l'idée d'avoir un seuil minimum à 1000 euros de retraite, c'était quand même la moindre des choses. Il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte que les paysans ne l'ont jamais. Et que donc, ils ont en moyenne 500-600 euros de retraite. Bon, donc, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas qui va gagner, qui va perdre. C'est est-ce qu'on va avoir le sentiment que majoritairement, on a fait un pas vers plus de solidarité ou pas? Pour l'instant, on l'a pas fait. Donc, comment on va sortir de ça? C'est ça qui s'appelle la politique et les rapports de force. Mais s'il y en a un qui gagne et un qui perd, eh ben, on a tous perdu parce qu'on ne pourra pas raconter dans 10 ou 20 ans qu'on a refondé notre modèle social.
Et donc, l'avenir de la France, c'est pas la start-up nation, c'est la paysannerie, ou c'est les deux en même temps?
C'est les deux en même temps. D'ailleurs, vous savez, vous seriez surpris du rôle de la technologie dans le développement de l'agriculture. Regardez le nombre de fermes qui suivent leurs champs sur Internet, le nombre de paysans qui savent à quel endroit ils doivent exactement traiter. Parce qu'une des meilleures façons de mettre moins moins de produits chimiques, c'est de pas en mettre dans tout le champ, mais d'aller en mettre dans les 10 mètres carrés qui sont atteints. Donc, pensez l'alliance de ça. Pensez la vente par Amazon des produits frais. Quand est-ce que vous pourrez commander votre poulet de l'Aubrac pour qu'il vous soit livré le lendemain en ville? On est dans un tout à fait nouveau modèle agricole. C'est ça qu'il faut favoriser, évidemment, sur un modèle beaucoup plus écologique.
C'est passionnant. Merci en tout cas, Jean Viard, d'avoir été l'invité du Grand Face à Face. Le Sacre de la Terre, c'est aux éditions de l'Aube avec Michel Marié et Bertrand Hervieux. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Paola Puerari qui a préparé cette émission, à la réalisation cette semaine à Lioro et à la technique Théo Gomard. À suivre, les secrets d'info de Jacques Monin. Qui est Nicolas Berggruen, le financier qui veut peser sur la marche du monde? Une enquête signée Benoît Colomba. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat.